On est de retour pour la deuxième partie de ce Radio Rôliste et on va parler Pathfinder avec Jean-Baptiste. On t'écoute.
Oui, alors Pathfinder, enfin plus...
Alors plus près du micro, pardon.
Voilà, plus précisément, on va parler de donc, l'éveil des Seigneurs des Runes, qui est donc la première campagne sortie par Paizo au moment de leur indépendance, c'est-à-dire juste après qu'ils aient lâché Donjons et Dragons Magazine, enfin qu'ils l'aient lâché contraint et forcé, hein, parce que Wizard avait récupéré la gestion des deux magazines pour la sortie de la quatrième édition de D&D. Donc, à l'époque de Donjons et Dragons Magazine, Paizo avait déjà sorti 3 campagnes, donc des trucs vraiment massifs, censés être joués du niveau 1 au niveau 20, donc on imagine ce que ça implique en termes de taille de bouquin. Au moment où ils perdent Dragons et Donjons, l'équipe de chez Paizo décide de continuer à sortir du matériel pour l'édition à l'époque 3.5 de D&D, parce qu'ils ne tentent pas l'aventure de la quatrième édition, notamment parce que la licence était beaucoup plus restrictive et beaucoup moins intéressante pour eux. Donc restent sur la 3.5 et donc sortent leur première campagne, l'éveil des Seigneurs des Runes. Sur un modèle assez intéressant, puisqu'à l'époque c'était, enfin c'est toujours le cas pour ce qu'on appelle les Adventure Pass Pathfinder, donc d'une sortie mensuelle, donc chaque campagne est allée sur 6 mois, une sortie mensuelle d'un document qui est donc composé d'un sixième de la campagne et de 2 voire 3 articles indépendants, plus ou moins indépendants, plus ou moins liés à la campagne, des éclairages sur différentes choses dans l'univers, des façons d'étendre un petit peu ce qui va se passer dans le volume sorti. Donc c'est un espèce de format mi-jeu de rôle, mi-magazine, qui est extrêmement intéressant.
En même temps, c'est toujours des éléments, genre si c'est un monstre, il va être utilisé dans le scénario, ou des trucs comme
oui,
ça.
Oui, il y a toujours un bestiaire, c'est-à-dire qu'il te refourgue 6 monstres dans chaque numéro, mais je pensais plus en fait aux articles, il y a toujours 2 articles de fond. À la fin, où les connexions peuvent être parfois plus lâches par rapport au scénario, mais oui, c'est ça gravite autour. Maintenant,
oui, voilà,
c'est quelque chose. Voilà, mais c'est pas une extension directe, c'est vraiment des petits articles. Et donc, ce format mi-magazine, mi-jeu de rôle est toujours une excellente idée. Enfin, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Tous les mois, tu vas acheter ton petit machin.
Ouais, par contre, je vois que le livre est pas au format magazine de tout bête, quoi. Le papier, il est épais.
Non. Voilà, c'est.
Est solide. Enfin,
oui,
il est souple, mais.
Tout à fait. C'est un supplément
JDR. Souple et solide à la fois.
C'est un supplément JDR, mais justement, dans ce côté sortie mensuelle, il y a quelque chose qui le rapproche du magazine, je trouve, hein, et qui fonctionne bien. C'est vrai qu'on a sa petite dose de JDR, son petit shot, pour une sortie qui, au final, parce que quand on achète les 6 d'une campagne, ça te fait une campagne très chère, hein, puisqu'on parle quand même de entre 110 et 120 euros pour l'ensemble de la campagne, mais comme tu as juste ton petit bifton de vin tous les mois, c'est moins douloureux, on va dire.
Ouais, c'est pas mal trouvé.
Mais en français, il a réellement été vendu comme ça ?
Oui, en français, ce que j'ai amené là, c'est l'édition française. Hein, donc,
oui, bien sûr, j'ai la même, mais en fait, je pensais qu'ils le vendaient qu'en coffret au final.
En fait, ça dépend des campagnes, c'est-à-dire que donc, la traduction française des Adventures Pass, enfin de tout ce qui est Pathfinder, c'est donc BBE qui le fait en France. Selon les campagnes, ils ont choisi soit ce modèle-là, soit le modèle de la précommande. Tout à fait.
Chez BBE, ils font plus que ça maintenant, j'ai l'impression.
Bon. Beaucoup, ouais, beaucoup.
Mais après, je pense qu'ils l'ont fait surtout pour les campagnes les moins sexy, celles qu'ils étaient le moins susceptibles de vendre, et donc ils voulaient s'assurer de pouvoir les écouler.
Ouais.
Ce qui est compréhensible.
À la convention qu'ils ont organisée pour leurs 10 ans, là, ils ont sorti une version spéciale de Cassius où ils parlent, il y a quelques chiffres sur les jeux, etc. Et ils parlent notamment des campagnes de Pathfinder et du fait qu'en fait, elles ne leur rapportent rien. C'est-à-dire, au mieux, ils sont à zéro ou presque. Ou un peu au-dessus.
Et donc, comment ça se fait ?
Parce qu'en fait, en termes de coûts de fabrication et de nombre d'exemplaires diffusés, du coup, je pense qu'au numéro, ça doit être vachement cher.
Et donc, j'imagine que comme pour toute édition de Donjons, en fait, ils se font de la maille sur les suppléments de règles. Ça a toujours été plus ou moins le cas.
Je pense que c'est le manuel des joueurs qui
et les supplé-
fournit...
Qui tire, qui locomotive ?
Ouais, je pense. Hein.
Bah après, ils ont sorti, je crois qu'ils ont traduit récemment, genre le manuel,
manuel
des armes, les machins. Voilà,
oui, c'est ça, oui.
Ça, à mon avis, ça se vend.
Je vais dire les clan books, mais c'est un peu ça.
Oui, c'est un peu ça, clairement.
Ah, vas-y, continue.
À l'époque, c'était assez. À l'époque, c'était très original comme façon de publier de la campagne. Alors maintenant, enfin, les AP Pathfinder, on en est quand même, je crois, quasiment au. au 10e. Enfin, ça, on commence à en avoir un certain nombre, voire plus. J'ai un peu perdu le compte parce que je n'ai plus suivi. Je reviendrai là-dessus par la suite. Mais c'était très original. Et donc, pourquoi je vais parler de celle-là en particulier ? Parce que c'est la première, mais aussi parce qu'elle a été rééditée. Donc, très récemment, en un livre unique pour fêter justement l'anniversaire, pour fêter, on va dire, le début de l'aventure Paizo. Et donc, ils ont cette campagne qui est considérée comme leur grand classique, a été rééditée en un format classique, justement, donc un gros pavé, avec des articles en moins, parce qu'ils n'ont pas pu tout remettre par rapport à la publication en 6 fascicules.
Ouais, parce que là, ça fait gros, là.
Ah non, non, ils ont sucré des trucs, hein, ils ont sucré des trucs, mais par contre...
La moitié même. Mais ils ont ajouté d'autres choses, parce que si je me souviens bien, il doit y avoir aussi l'espèce de petit guide du joueur...
Tout à fait, je ne l'ai pas amené là, mais il y avait aussi un guide du joueur par campagne.
Et un guide de la région, en gros.
Alors, ils l'ont ressorti par la suite, mais c'était pas le cas, parce qu'en fait, et justement, là on entre sur les différences entre les deux éditions de la campagne, c'est-à-dire que dans l'édition par fascicule en 6, en fait, il y avait déjà, l'édition originale, il y avait dans les fameux petits articles, une présentation très bien faite, en quelques pages, de la région, des villes, etc. Mmh. Ce qui faisait que vraiment, à la première sortie... de la campagne, elle était complètement autosuffisante. Le fait est que quand ils ont ressorti la version Deluxe, etc., ils ont dû sucrer des choses, et ils ont donc sucré notamment ces petits articles de présentation, et en ont profité pour ressortir un guide étendu, plus détaillé, etc., de la région. Donc ça, c'est intéressant. Mais il n'en reste pas moins, quand on achète la version actuelle, il manque des trucs. Mais par contre, effectivement, comme tu le disais, pour compenser, ils ont en fait étayé la campagne, ils ont sucré les articles annexes, mais ils ont étayé la campagne en rajoutant des petites rencontres, des petits machins supplémentaires dans le cœur de la campagne. Donc le vrai fan jusqu'au boutiste de la campagne,
il aura tout.
Il aura les deux. Voilà, faut pas se mentir.
C'est fait exprès.
Je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà, si vous êtes à fond sur l'éveil des Cernières Runes, il vous faut les deux éditions.
Est-ce que tu peux nous parler de la campagne un peu maintenant ?
Voilà, je vais y venir. Donc, la campagne, elle a des qualités, elle a des défauts. Moi, je l'adore, je l'ai fait jouer deux fois. J'en suis très fan. C'est vraiment, s'il y a un mot qui la caractérise, c'est une campagne archétypale. Enfin, la couverture du premier tome est éloquente. On commence par des gobelins. Voilà, on commence par affronter des gobelins et on finit par affronter... Alors oui, je vais spoiler un petit peu, donc si vous êtes joueur potentiel de la campagne, vous passez à la fin de l'émission tout de suite, parce que je vais quand même entrer un petit peu dans le détail. Donc on commence par des gobelins, on finit par affronter un archimage issu de temps immémoriaux et d'un empire oublié. On est dans du classique.
Alors, c'est pas un super gros spoil. Est-ce qu'il y a des gros spoils après ?
Je vais en donner un ou deux, mais je vais essayer de pas piller la campagne en balançant tous les tenants et aboutissants, mais il y a un ou deux trucs que j'ai précisé qui ont peut-être un peu tué la surprise chez le joueur. Mais c'est léger, je gâcherai pas la campagne, on peut se rassurez-vous là-dessus.
Ok.
Donc, ouais, vas-y.
Non, je disais simplement essayer de l'évoquer dans ce cas-là pour pas gêner les gens, quoi.
Voilà, mais je préciserai à chaque fois. Campagne archétypale, mais en même temps bourrée de scènes fortes, d'ambiances un petit peu originales ou, si elles ne sont pas originales, très bien exploitées. Clairement, la première moitié de la campagne est beaucoup plus forte que la deuxième moitié. Les trois premiers tomes sont plein de bonnes idées, notamment le tome 2, le fascicule 2 et le fascicule 3 de la campagne sont plein de bonnes idées. Il y a des moments vraiment poignants pour peu que le maître de jeu fasse l'effort de casser un peu le standard du « bon, bah, t'as trois ogres qui te chargent, qu'est-ce que tu fais ? Balancez-moi vos jets d'initiative. » Mais essaye de donner un petit peu d'ambiance. On peut vraiment avoir des moments extrêmement impressionnant et éprouvant à la table, notamment dans le tome 2 et le tome 3, donc qui sont les plus réussis, il y a des moments qui font peur.
Mais parce que c'est des combats spéciaux, parce que tu veux dire c'est...
Parce qu'il y a un travail sur l'ambiance.
Ah, okay.
Il y a vraiment... notamment, bon, là je vais spoiler, donc on va faire un petit 3
petit
minutes, 3 minutes spoil, voilà. sur le tome 3, les joueurs sont envoyés donc pour aller voir ce qui s'est passé sur un fort perdu qui ne répond plus. Donc en gros, ils n'ont plus de nouvelles, ils ne savent pas ce qui s'est passé, donc les joueurs sont envoyés pour aller voir ce qui s'y passe, et en fait, le fort a été attaqué par une troupe d'ogres. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les auteurs, bon bah voilà, en gros les joueurs vont friter les ogres, on l'a tous fait, sauf que là les auteurs vont prendre le temps de te montrer pourquoi les ogres sont flippants. C'est-à-dire que les ogres, ils violent, ils pillent, ils mangent vivant les gens, et ils font mumuse avec les cadavres. Et donc c'est plein de descriptions.
C'est des vikings en fait.
Bah... Le choix qu'ils ont fait, alors peut faire...
C'est des ogres vikings.
Non, mais le choix qu'ils ont fait pour faire un parallèle, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont choisi de te montrer des ogres redneck, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, vous avez vu Deliverance, bah, les ogres, là, ils jouent du banjo. Voilà, et tu vas faire la truie. Voilà.
Ok.
Et voilà, et donc...
Ouais, déjà, j'ai peur, là.
Voilà, mais honnêtement, y a, dans les descriptions, il y a parfois des scènes où je me suis retrouvé à décrire les trucs aux joueurs, et tu voyais la grimace des joueurs, genre, c'est quand même bien gorasse. Et quand t'arrives à obtenir ce genre d'effet-là, ça se passe bien. Voilà, il y a vraiment des trucs assez sympas. Donc, on va finir sur un spoil. Après, je pense que je vais arrêter de spoiler. Dans le quatrième tome, qui par ailleurs est un des plus faibles de la campagne, il y a une bonne idée. C'est-à-dire que dans les trois premiers tomes, les joueurs vont s'échiner à défendre un village. C'est un petit village, c'est un petit machin. Mais ils y sont installés. Ils y sont bien, donc on te file une description complète du village avec ses mini-intrigues, etc. Enfin, village, on va dire, bourg. Ses intrigues, qui couche avec qui pique dans la caisse, etc. Donc il y a plein de trucs à faire vivre aux joueurs. Et évidemment, l'objectif, si tu veux sortir un peu de la campagne Dungeon Crawl, c'est d'impliquer à mort les joueurs dans le village. Pourquoi ? Parce que dans le quatrième tome, le village va être attaqué. Et être attaqué de façon vraiment violente. Et en gros, un MJ va pouvoir exploiter ça en... massacrant les PNJ que les joueurs ont appris à apprécier, en te montrant les lieux qu'ils ont aimés à feu et à sang parce que tout explose, etc. Et peut vraiment y avoir un côté très grand spectacle qui fonctionne bien. Voilà. À côté de ça, c'est archétypal. Je vais pas vous dire que les mecs ont réinventé la roue, mais ils font du basique et ils le font de façon extrêmement solide. Moi, c'est pour ça que j'aime ça. Ça fait... appel à l'imaginaire commun du rôliste, c'est-à-dire qu'on va... Tu passes pas... Moi, à chaque fois, l'univers de la campagne, donc la région très précise où se situe la campagne, je l'ai pitché à mes joueurs en 5 minutes montre en main. J'ai pas besoin de leur expliquer que Grulutz, le nécromancien, etc., de leur balancer des noms imprononçables avec les joueurs qui prennent des notes. Oui, mais je comprends pas la différence entre les elfes gris et les elfes mauves. Voilà, non, c'est basique. C'est,
oui, mais en l'an moins 8700, il s'est passé ça.
Voilà, c'est un univers qui est un petit peu un univers sandbox, en tout cas cette région-là, la Varizie, qui est vraiment pour moi la réussite majeure de Paizo sur l'ensemble de leur monde Golarion. La Varizie, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Golarion, ouais, que veux-tu, c'est comme ça. Golarion.
Golarion, ouais.
Voilà,
c'est dirigé par un mage qui s'appelle Profion.
Voilà, c'est ça.
C'est vraiment, cette région-là est géniale, notamment parce qu'elle a un aspect un petit peu Sword and Sorcery, notamment pour tout ce qui est lié à une espèce d'empire oublié, effondré, mais dont les ruines affleurent sur l'ensemble de la région, et où les joueurs ont finalement découvert ce qui s'est passé exactement et de quoi il s'agissait. Il y a une ambiance à la Conan, il y a un truc, une espèce de souffle sauvage qui marche vraiment bien dans cet univers.
Une espèce de noirceur millénaire,
oui.
Tout
ouais,
ça.
Ouais, moi j'aime bien. En gros, et d'ailleurs, c'est un détail extrêmement important, il y a un côté Lovecraftien dans ce truc-là, et pour le coup, les auteurs l'ont vraiment assumé, puisque notamment les joueurs vont pouvoir croiser dans un des tomes des maigres bêtes de la nuit et des chiens de Tyndalos qui débarquent sur Golarion. Et il y a un aspect essentiel du
dire. Ça fait du pex, ça, une maigre bête de la nuit.
Non, mais les deux investigateurs qui débarquent avec des fusils à pompe sans savoir dans quoi ils viennent de tomber, ouais.
Dans le sixième tome, ils parlent aussi énormément de Leng, donc tous les lecteurs de Lovecraft connaissent extrêmement bien, qui est un élément clé du sixième tome. Donc, ils partent du principe que toutes les créations de Lovecraft existent sur Golarion, et ça rajoute justement ce côté un petit peu flippant.
D'accord.
Donc ça fonctionne très bien.
Est-ce qu'il y a à parler de ces deux créatures-là, il y a du mythe, est-ce qu'ils ont fait un truc vraiment cthulien dans le sens... ils l'ont intégré, c'est-à-dire qu'ils ont fait un mi-made fan avec du mythe de Cthulhu, ou est-ce que c'est juste du sel?
Alors, ça... Sur cette campagne-là, à part dans le sixième tome où Lang est vraiment important, sur cette campagne-là, c'est du sel. Par contre, ils ont par la suite beaucoup plus développé cet aspect-là, notamment en faisant la septième ou la huitième campagne, en faisant quand même un chapitre entièrement consacré justement au rôle des grands anciens dans Golarion. Donc ils ont vraiment voulu intégrer ce
D'accord, mythe-là. Donc c'est un mix d'univers, c'est pas juste un clin d'œil t'as vu, quoi. Tu vois,
voilà, mais en fait, c'est parce qu'eux partent du principe et je crois que je les cite, l'horreur que représentent les grands anciens, en fait, est répartie dans le multivers. C'est-à-dire que tous les mondes vivent dans l'ombre de Lovecraft, quelque part.
D'accord, et il y a toujours une petite dose quelque part.
Voilà, quelque part. Et je trouve que ça fonctionne bien, c'est une recette qui fonctionne bien. Alors, voilà, bon, J'ai pas grand chose.
J'aime beaucoup déjà. Ouais.
J'ai pas... voir le demi-plan d'Arkham quelque part.
Oui, mais il y a une volonté un petit peu de déstabiliser le joueur qui est bonne. Alors, je ne sais pas si un jour ils commettront l'erreur de filer les stats de Cthulhu, mais ce qui avait été fait, je crois, pour ADD1, je crois, ils avaient.
Fain and Folio,
t'avais toutes les créatures de partout. Je me souviens plus s'il y avait du mythe, mais.
Il y avait
du mythe de Cthulhu. Ouais.
Et avec le problème, c'est que si ça a des stats, ça peut mourir. Ouais. Or, voilà, c'est un petit peu le souci.
Si ça a des stats, ça peut mourir.
En termes de qualité, voilà, je vais me répéter, mais ça réinvente pas la roue, mais ça fait vraiment bien rouler le machin. Si vous voulez faire du donge de qualité, vous trouverez votre bonheur. Alors maintenant, on va parler un petit peu des défauts, parce qu'il y en a. C'est de la 3.5, et qui dit 3.5 dit passer un certain stade, on a des stat blocks absolument imbitables, des trucs de pages et demi de long, qui font que le MJ est obligé de prendre des notes avant les combats, genre comment je vais faire jouer ce méchant-là. Ça sous-entend des combats qui vont être effectivement longs, complexes.
Ouais, moi je me souviens d'une partie de jeu de rôle, alors je vais pas vous raconter ma vie, mais effectivement où j'étais dans une campagne contre un gros méchant comme ça, et je me souviens qu'à la fin du gros combat contre le gros méchant, qui était pas un méchant final, mais qui était quand même genre un mec majeur dans la campagne, une fois qu'on l'avait buté, on s'est dit merde, c'était quand même un peu facile, et le lendemain le MJ nous a dit je crois que j'ai oublié la moitié des pouvoirs. Voilà, genre à un moment on l'avait désintégré alors qu'il avait des protections, enfin tu vois c'est...
Mais ouais. Ça c'est typique, le méchant final de cette campagne, je ne spoilerai plus, moi honnêtement je ne saurais pas le jouer, je ne saurais pas l'utiliser, enfin voilà, enfin, je ne saurais pas quoi en faire, à moins de connaître les règles vraiment sur le bout des doigts, et quand je parle des règles c'est de l'ensemble des sorts du manuel des joueurs. Je ne saurais pas quoi en faire, je le rendrais pas aussi efficace qu'il est supposé l'être. Mais ça c'est vrai pour le méchant de fin, mais c'est vrai pour 80% des méchants à partir de la deuxième moitié de la campagne.
Bah, déjà, si tu dis que c'est un archimage, ça signifie donc qu'il a accès à la totalité des sorts du bouquin, et donc tu peux faire à peu près n'importe quoi.
Mais, enfin, c'est le fond du problème. Alors, ceci posé, ça implique aussi, enfin, c'est tout bête, mais ça, c'est la mécanique propre à la 3.5. C'est plus ou moins vrai dans chaque édition de Donjon, mais je crois que c'est caricatural dans la 3.5, c'est qu'il faut de plus en plus de combats pour que les joueurs puissent continuer à progresser. Donc plus on va en avant, plus il y a de bastons. Il faut justifier des bastons qui soient intéressantes pour des joueurs à haut niveau. Donc c'est
épique.
Donc il n'y a plus de troufion. Hein. Le mec de base, c'est un orc niveau 9. Hein, je veux dire, voilà, c'est fini.
Un sanglier niveau 43. Comme dans World of
Warcraft. Avec une douzaine de dons de sanglier.
Les dons de sanglier sont génériques.
Charge puissante. Ouais.
Sanglier du chaos.
Voilà. Non, mais on est vraiment. T'es à peine dans la moquerie. C'est ça, je veux dire.
Excuse-moi, mais est-ce que tu es en train de décrire un problème qui n'est pas un problème lié à cette campagne-là, c'est un problème qui est général dans Donjons et Dragons sur des campagnes.
Oui, oui, bien sûr, mais pour moi, en tant que lecteur de l'éveil des seigneurs des runes sur Pathfinder, c'est un problème. C'est-à-dire que le sixième tome...
Ouais, mais les gens qui sont habitués à jouer comme ça sur d'autres campagnes, ça peut-être que ça les gêne moins que toi.
Bien sûr, mais alors, c'est, en fait, à la limite, effectivement, pour conclure, le truc c'est, et il y en a de plus en plus, quelqu'un qui achèterait la campagne pour jouer avec une autre mécanique de donge, un autre donge, il y en a pléthore maintenant, ouais, se retrouverait à payer notamment son sixième tome pour deux tiers d'ouvrages utiles, puisque le dernier tiers est composé de stat blocks qui ne lui servent à rien. Faut être prêt à faire ce sacrifice.
Ouais, mais c'est un défaut inhérent à Pathfinder, évidemment, mais tu l'as dit, à toutes les éditions de donjons, à beaucoup, où c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de remplissage de stat blocks, quoi. Enfin, de remplissage tout court, d'ailleurs.
Mais quand tu dis stat block, ça peut aussi comprendre notamment des artefacts ou des machins comme ça. Non, c'est.
Oui, mais disons, on va dire la fiche globale de la créature pour la jouer.
Je veux dire que. Enfin, je sais pertinemment que moi, je jouerai jamais avec le système de Pathfinder parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais par exemple, si je devais le jouer avec Dungeon World, ce serait intéressant d'avoir les stat blocks pour en fait savoir en gros comment marche le personnage.
Oui.
Mais sinon, c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt.
Bah, c'est surtout quand ça prend pour chaque créature 2 pages et demie. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, c'est pas un défaut propre à la campagne. Alors, si on veut parler de défauts propres à la campagne, il y a des parties de la campagne qui sont moins inspirées que d'autres. Ouais. Le quatrième tome, il est un peu faiblard. Le début est très bien, mais le quatrième tome est un peu faiblard. Parce qu'il y a le syndrome, dans chaque AP, en tout cas dans les premiers, il y avait un méga donjon. Il y a
dans
un tome.
AP, c'est quoi ?
Adventure Pass.
Ah, d'accord. Okay.
C'est les campagnes Pathfinder, ça s'appelle un AP, un Adventure Pass. sur les on va dire sur les trois premières, ils avaient réussi l'exploit de faire sur donc sur les six volumes de chacune des campagnes un méga donjon, c'est-à-dire il y a un des volumes qui est uniquement un donjon. Alors
tu me donnes hyper envie là.
Voilà, mais après c'est
moi
c'est...
je crache pas dessus hein, sur voilà. Un bon donjon.
C'est plus ou moins réussi. Moi le méga donjon de celle-là, de cette campagne-là, je le trouve et je suis pas du tout. Alors, faut que ce soit très clair pour l'auditeur, je suis pas du tout un MJ qui aime le dungeon crawl. Je déteste ça. J'en fais quasiment jamais. Mais ce méga donjon-là, je vois des trucs à en faire. Mmh. Alors, je le ferai jouer probablement en un dixième du temps que ça demanderait à un joueur, à un MJ qui le ferait jouer en dungeon crawl, parce que je vais l'expédier. Mais je vois les trucs à en faire. Et le problème...
Ah, tu peux en faire un donjon 5 salles.
C'est en fait...
Non, mais l'idée, c'est est-ce qu'il y a du sens derrière, c'est-à-dire
que... Oui, ouais. Et moi, je trouve
justement,
qu'il y en a...
C'est ce que tu es en train
voilà,
de...
je trouve qu'il y a quelque chose, il y a des trucs à récupérer pour donner... pour faire de ça une rencontre, un épisode intéressant de la campagne. Mais effectivement, je vais pas les faire passer à leur ordre de marche qui passe le premier. Ça ne m'intéresse pas.
Qui porte les torches.
Voilà.
Vous allez
dire. Oui.
Qui tient le rouleau de corde.
Qui tient la corde à la perche de 3 mètres.
Voilà. Mais à la limite, dans cette campagne-là, qui est donc la première de chez Paizo, pourcentage de donjons bien qu'élevé reste tout à fait raisonnable. Et c'est le gros défaut pour moi des campagnes Paizo actuelles, c'est que plus les campagnes sont sorties, plus il y a eu de donjons. Et honnêtement, donc pour revenir à ce que je disais, moi je suis plus du tout l'actualité des campagnes Pathfinder pour la simple et bonne raison que les dernières que j'ai eues dans les mains, enfin j'ai eu envie de les brûler, parce que c'est vraiment du donjon de plus en plus. Et ils ont perdu ce qui faisait la qualité de leur première campagne.
Mais c'est du donjon de style genre du remplissage, enfin des trucs aléatoires des...
Bah, disons que c'est... ils ont augmenté le volume de baston, et ils ont diminué l'intelligence, enfin,
l'intrigue quoi.
L'IA.
Et je dirais l'intelligence d'écriture et la façon de jouer avec les codes, etc., etc. Donc on se retrouve avec un truc qui est de moins en moins inspiré. Après, en plus de ça, ils sont passés donc à Pathfinder RPG. Oui, d'ailleurs, point de détail important, la réédition en un seul tome de la campagne a été adaptée pour Pathfinder RPG. Donc les stat blocks dans la version en 6 volumes, c'est pour la 3.5. Les stat blocks de la version compilée, c'est pour Pathfinder RPG. Et
je vais poser une question bête. C'est quoi Pathfinder RPG ? Parce que je suis pas très très au fait de Pathfinder.
Ah oui,
en
d'accord.
Général.
Donc pas du tout. Ah ok. Je pensais que c'était.
Enfin, c'est quoi la différence ? Que moi, je connaissais Pathfinder jusqu'à maintenant avec les 3.5 très améliorés entre guillemets.
Oui, alors les guillemets sont importants parce qu'on est beaucoup à considérer que c'est pas une amélioration du tout.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était quand même. La version 3.5 telle qu'elle aurait dû être, donc peut-être une 3.8, j'ai envie de dire.
Ils ont voulu la vendre comme ça, comme une 3.75.
Ouais, moi, c'est ce que j'ai entendu. Mais alors, c'est quoi Pathfinder RPG ? C'est encore
c'est
autre
ça.
Chose ?
Non, c'est ça. Ah, c'est Pathfinder. Ça.
C'est quoi la différence entre ce que tu décris, la 3.5, et RPG ?
Bah, c'est un bouquin à part, en fait. Ils ont sorti un manuel des joueurs, un guide du maître
bestiaire. L'idée, c'est que c'était de continuer la 3.5, puisqu'ils avaient le droit, du fait de la licence OGL, ils avaient le droit de ressortir les règles, mais ils en ont profité pour faire ce que eux
leur
pensaient
version,
être une, 3, une 3.75.
Ah, d'accord. Parce que moi, je pense... Excuse-moi. Voilà. Je pensais que la version de base de Pathfinder, qui a déjà plusieurs années, hein, on va dire, je pensais que c'était déjà le cas, en fait.
C'est la 3.75. C'est les Pathfinder RPG.
Bah, je comprends pas la différence, alors. Excusez-moi.
Entre quoi
entre la 3.5 et 3.75 ouais.
Bah non, c'est-à-dire que Pathfinder, c'est Pathfinder RPG. Quand tu
oui,
dis qu'ils
c'est
avaient.
Ça, ouais.
D'accord. Mais donc, pourquoi la
alors,
campagne, tu parlais de 3.5 spécifiquement ?
Alors, parce, que, en fait,
parce qu'en fait, ils ont commencé de sortir la campagne avant qu'ils aient finalisé leur propre version du jeu.
En fait, Pathfinder RPG est sorti en même temps que la cinquième campagne Pathfinder. Donc, les quatre premières campagnes Pathfinder étaient pour la 3.5.
D'accord, mais donc c'est assez ancien. Enfin, entre
ah oui, mais ouais, celle-là, ouais. Elle date. Bah, l'édition anniversaire, justement, est ressortie pour ses 5 ans, je crois. Hein. C'est les 5 ans de la sortie de la
d'accord,
campagne.
D'accord, donc ça fait 5. En fait, c'est une campagne qui a 5 ans, enfin qui s'est étendue
oui, oui.
sur 6 mois. Il y a
c'est
5
ça,
ans.
Il y a 5 ans,
okay,
c'est ça.
Je comprends.
Voilà. Et donc, la réédition, c'est Statblock Pathfinder RPG, puisqu'à l'époque de la première sortie, c'était à l'époque encore la 3.5. C'était pas Pathfinder RPG. Et
okay,
moi,
okay.
Donc. Pour dire, ça n'engage que moi, mais je considère que Pathfinder RPG n'est pas une 3.5 améliorée, c'est une 3.5 transformée, mais tout ce qu'ils ont amélioré d'un côté, ils l'ont empiré de l'autre. Donc, à titre personnel, je trouve qu'on n'y gagne pas.
Tu peux développer pour les...
Je peux développer, mais on sortira un petit peu du cadre de ma chronique. Mais,
Ouais, c'est vrai. On peut y revenir après, on s'en fout.
Éventuellement, après, je suis pas... Enfin, à moins que tu aies vraiment un exemple, effectivement, qui sort de l'ordinaire et qui permette de vraiment se rendre compte, je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent de parler vraiment brutalement comme ça de système de jeu, enfin, sauf si t'as vraiment un truc intéressant.
Oh, toi qui est si gourmand de système d'habitude, tu refuserais
non.
un
petit shot de RPG. non, pas du tout, mais est-ce que t'as un exemple qui soit vraiment pertinent ou qui montre qu'effectivement ils ont.
Un truc que tu trouves vraiment raté par exemple
raté,
dans la
ouais.
version de Pathfinder
C'est une bonne question, mais c'est les petits détails, parce que c'est pas une rupture radicale, mais enfin, ouais. Moi, un truc que j'ai trouvé gênant, pour prendre un exemple, ça vous paraîtra probablement rien du tout, mais globalement, dans la 3.5, tout le monde est d'accord pour dire que certaines classes étaient complètement cheatées. Je parle même des classes de base, je parle pas de multiclassage ou ça.
Absolument bon, pas d'accord avec toi.
en gros, le druide est très nettement au-dessus de tous ses petits camarades.
Le druide est toujours au-dessus des camarades, tout le temps, ouais, quel mais... que soit le jeu.
Pour la Pathfinder RPG, les mecs se sont dit, bon, le druide est au-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? La solution logique et économique, à mon sens, en termes de compatibilité, aurait été de trouver des moyens un petit peu discrets de baisser un peu la force du druide. Les mecs de chez Pathfinder n'ont pas eu c'est pas ce qu'ils se sont dit. Eux, ils se sont dit, on va monter toutes les autres au niveau du druide.
Fait, c'est marrant, c'est qu'en termes de... Excuse-moi, ça fait c'est une référence au MMORPG en général, quand tu as une classe, l'équilibre technique dans un MMORPG, donc un jeu vidéo, est toujours très difficile à obtenir. Donc tu as toujours des mecs qui se plaignent, des gens dont c'est qui jouent telle classe, qui se plaignent que leur classe n'est pas assez balèze, et tu as tous les autres qui viennent dire que leur classe est trop balèze. Quelle que soit la classe en question, hein, donc voilà. Et donc ce que font les gens, ils appellent au nerf.
Oui, tout à fait.
Donc, ils tentent de réduire, et les gens, normalement, ils disent non, mais attendez, ça marche bien, montez plutôt toutes les autres. Donc c'est un choix conceptuel, je sais pas si c'est une erreur.
Oui, mais c'est là où je veux en venir. Le problème, c'est que, en fait, là, dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que pour monter toutes les autres classes, alors sachant qu'en plus, ils se sont plantés, parce que le druide est toujours le plus fort. Mais ça, c'est encore un autre souci. Ouais. Mais donc, pour monter toutes les autres classes, ils leur ont filé des nouvelles capacités spéciales. Or, plus de capacités spéciales sur une fiche, ça veut dire une fiche plus lourde. Toutes les fiches de Pathfinder RPG sont plus lourdes que leur équivalent 3.5, parce que chaque classe a eu un ou deux trucs en plus. Et on se retrouve avec des capacités qui sont... Enfin, des fiches qui sont encore plus chargées qu'en 3.5.
Encore plus lourdes, ouais.
Voilà. Donc, ce qui, pour moi, est une erreur basique de game design. Mais voilà, qui suis-je pour juger les gens de Pathfinder ? Donc, pour revenir sur la campagne, l'éveil des Seigneurs des Runes, je ne pense pas avoir grand-chose d'autre à ajouter. C'est...
Donc toi, si je résume, la campagne elle-même t'a plu parce que c'est une campagne qui finit sur de l'épique, qui commence très bas niveau et qui finit sur de l'épique. Donc, les trucs qu'on aime bien un petit peu, qu'on aime bien voir à la télé ou enfin, sur des films qu'on aime bien jouer, c'est des trucs où on voit vraiment des évolutions de personnages. Donc, toi, tu commences niveau 1, tu finis niveau 20 comme les autres campagnes ?
Non, parce que tu finis niveau de mémoire 17. Mais bon, ouais, on est quasiment.
Équivalent, quoi. On est quasiment au taquet. Et donc, tu vois bien l'évolution de ton personnage.
Ah, bah là,
il se passe plein de choses, quoi.
Ah, mais clairement, enfin, ton personnage, tu commences aventurier errant, un peu bouilleux, tu finis champion quasiment cosmique. Parce que, évidemment, tu vas sauver le monde. Enfin, ça, c'est une évidence.
Ça sert à quoi ? C'est pour sauver le village, ça va bien.
Voilà. Niveau 17, attends quand même.
Ouais, oh.
Voilà, mais.
C'est un minimum, quoi. Et si c'est pas ce monde-là, c'est le monde d'à côté, mais il faut y aller, quoi.
Voir les deux.
Tu sais, monter 17 pour rien foutre et rester dans le village.
Voilà, mais.
Prends ta retraite, bon.
Mais ça, à la limite, je dirais que c'est un attendu de n'importe quelle campagne de nom. Je sais pas, pour moi, ce qui est fort, c'est que c'est bien fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments super intéressant, moi que j'ai fait, encore une fois, j'ai l'avantage de l'avoir fait jouer deux fois, et il y a quelques passages où j'ai toujours eu énormément de résultats autour de ma table, quoi, vraiment.
Ouais, tu fais ressentir ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, sur les ogres, moi là pour le coup ça me touche, parce que ce qui est intéressant c'est d'arriver à provoquer des émotions, comme tu dis, sur le visage des joueurs, tu vois
il y a
le dégoût, il y a au contraire de l'intérêt ou des choses comme ça, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire passer dans leur texte des choses que toi t'as réussi à faire passer en MJ. Et toute cette mise en scène pour camoufler un peu des combats, toujours des combats, finalement c'est ça la valeur ajoutée de cette campagne-là,
oui.
en particulier.
Tout à fait.
Là pour le coup, je trouve qu'elle est écrite un peu à la française, cette campagne. Mmh. En tout cas les premiers.
Oui, volumes. Je suis d'accord.
C'est-à-dire que tu as une vraie intrigue, quoi. C'est moi le dernier scénario de donjon que j'ai lu, ça doit être Troublant à Tragidor.
Ce qui
ne lequel n'avait
pas
ses qualités d'écriture.
Mais ouais, non, mais il y a une vraie force d'évocation. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une les PNJ ont du charisme. Les PNJ ont vraiment de la tronche, pas tous. Il y en a qui sont complètement foirés, etc. Mais globalement, les PNJ centraux, ceux qui vont être les interlocuteurs, les adversaires directs des PJ, ils envoient du pâté. Ils ont quelque chose.
D'accord. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter ? Donc toi, tu conseillerais cette campagne-là ? Alors sous quelle forme finalement ? Est-ce qu'on retrouve, est-ce qu'on doit racheter les 6 tomes ou est-ce qu'on peut se payer la dernière?
Alors, compte tenu du fait que je n'aime pas Pathfinder RPG, je préfère la 3.5 et que j'aime bien les petits articles annexes, moi je conseille plutôt l'édition antérieure. Maintenant, effectivement,
elle
si vous voulez.
Ouais, c'est ça, j'allais dire.
Elle est épuisée.
Trop c'est pour ça qu'elle est ressortie.
Il n'y a pas des PDF qui traînent quelque part? Enfin, qui est achetable, j'entends.
Je sais pas. Peut-être que si, sur le site de Black Book. Je me souviens pas.
Honnêtement, je sais pas non plus, mais enfin oui, achetez-la sur la version version la plus disponible, sachant qu'en plus l'édition Pathfinder, donc l'édition anniversaire, des illustrations ont été refaites pour qu'il y ait de plus jolies illustrations.
C'est
quand même un truc à noter effectivement, mais la campagne était déjà stylée au départ, elle l'est encore plus dans sa version rééditée.
D'accord.
Juste un petit truc parce que moi j'ai commencé de lire la campagne Kingmaker. Et dans le but, je me suis dit, tiens, je vais faire du Dungeon World. Mais j'ai envie de lire Kingmaker parce qu'on m'avait dit que c'était une sorte de lointain parent de Buffwright ou un truc comme ça. Et ça m'intéressait en fait d'avoir un contexte dans lequel les personnages sont amenés à avoir une espèce d'autorité, d'obtenir un vrai pouvoir sur les gens en fait. Et donc j'ai commencé de lire cette campagne, j'ai lu les deux premiers volumes, que je trouve plutôt bien foutus. En fait c'est un bac à sable, les personnages sont envoyés, en fait il y a un espèce d'empire dont les personnages font partie, qui est situé au nord on va dire. Au sud il y a une espèce de zone tampon, et au sud il y a d'autres pays, voilà. Et en fait, les personnages sont envoyés dans cette zone tampon pour essayer de reconquérir un petit peu la zone et d'établir une marche. Et donc, évidemment, ils déboulent comme un chien dans un jeu de quilles, au milieu des intrigues qui sont déjà en cours. Donc, par exemple, ils sont amenés... leur premier contact, c'est dans un espèce de relais fortifié. Et celui-ci, lorsqu'ils arrivent, il est soumis à un racket qui est lié à une bande de brigands. Il y a plusieurs bandes de brigands comme ça sur la zone qui sont tous liés à un même personnage. Et effectivement, c'est lui que les PJ vont affronter à la fin du premier volume. Et là aussi, c'est pareil. J'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé qu'il y avait du fond. Qu'il y avait des bonnes interactions entre les groupes, entre les différentes intrigues. Et la partie, on va dire, un peu stratégique commence dans le deuxième volume, où là, tu as un espèce de plan de la ville que tu vas être amené à fonder et à faire grandir. Et ce qui est drôle, c'est que tu as un espèce de plan à vide. Et tu as des petits bâtiments en papier, alors peut-être qu'il est possible de le faire sur papier. Et chaque bâtiment que tu ajoutes, il te donne des bonus de résistance de la ville pour ou tel type de fléau.
C'est repiqué dans les jeux vidéo, ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais il y a plein d'idées comme ça qui commencent à être repiquées dans les jeux vidéo et qui sont très intéressantes.
Et voilà, c'est plutôt marrant. J'ai pas terminé de le lire, mais ça a l'air.
Comment elle s'appelle cette campagne?
C'est Kingmaker.
Ah, Kingmaker, ouais. Okay.
Dans la deuxième campagne, il y a un truc. Le méga donjon de la deuxième campagne qui est vraiment. Enfin, pour moi, je l'ai toujours pris comme un hommage à Castlevania, etc. Ils ont vraiment intégré le concept de boss et de demi-boss. Parce qu'en fait, tu ne peux affronter le boss final du méga donjon que quand tu as battu tous les demi-boss. Parce qu'en fait, les demi-boss en fait, sont des ancres spirituelles pour le boss, et tant qu'ils ne sont pas tués, il ne peut pas mourir. Et donc, tu as vraiment le côté Castlevania, donc tu vas aller chercher, tuer demi-boss après demi-boss pour te faire le boss final.
Dans une deuxième campagne, c'est dans le deuxième tome de cette campagne?
Non, la deuxième campagne.
Ah, c'est quoi la deuxième campagne?
Alors, le nom...
Ah, la deuxième campagne de Pathfinder?
Ouais, tout à fait.
D'accord, c'est encore autre chose.
Oui, c'est dans un... Bah, en général, c'est à chaque fois dans un pays différent.
Alors justement, pour moi, la grande force des trois premières, c'est que les trois premières sont dans la même région, toujours la Varisie, et donc ce qui permet d'avoir vraiment une vision très large de la Varisie, qui est donc la région qui a été la plus développée dans l'ensemble du monde de Pathfinder. Et surtout, si tu veux vraiment tenter une expérience un peu rock'n'roll, tu peux y aller en complet freestyle, tu as tes trois campagnes sous le bras, tu lâches tes joueurs dans le sandbox Varizi et tu vois, en fonction de ce que vont faire tes joueurs, quelle campagne tu vas leur faire jouer. Moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant parce que tu sais pas laquelle des trois tu vas faire jouer. Ça va dépendre de la façon dont tes joueurs voyagent dans le pays et ce qu'ils rencontrent, etc.
Tu peux même mixer, en fait.
Oui, a priori, si tu veux, tu peux tenter les trucs, faire des une progression en parallèle des intrigues ou des choses comme ça.
L'interaction entre les trois campagnes n'était pas prévue, si ?
Non, elle n'est pas prévue, mais ils ont juste... Enfin, comme ils étaient au début du lancement de leur boîte, en gros, ils ont juste développé une région avant de développer le monde dans l'ensemble. Et donc, ils se sont dit, bon, bah, les trois premières campagnes, on les fait au même endroit. Et donc, ça permet d'avoir une vision très riche du truc. Et effectivement, pendant que tes joueurs sauvent le monde dans la région de la première campagne, tu sais ce que fait le prochain grand méchant dans une autre région, etc. Et donc, ça permet d'avoir une vision très dynamique de l'ensemble de cette contrée-là, la Varizi, qui sont toutes liées aussi... parce qu'il y a des références croisées, etc., etc. Et bon, les seigneurs des runes, qui sont donc les opposants de la première campagne, t'as des indices sur eux dans la deuxième et la troisième, des évocations, tu sais un petit peu ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font, etc. Et ça, je trouve ça intéressant pour une éventuelle méta-campagne. Mais alors là, pour le coup, il faut prévoir 8 ans de jeu devant soi.
Ah, c'est une question que je vais te poser, justement. Tu as dit que tu as fait jouer cette campagne-là de Pathfinder deux fois. L'éveil des seigneurs des runes. Combien de temps ça t'a pris à chaque fois en termes de séances, par exemple ?
Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai 82
séances.
Pour être tout à fait honnête, pour des raisons personnelles liées à mes tables à chaque fois, donc entre celles qui déménagent, etc., j'ai fait jouer les 4 premiers tomes de la campagne deux fois. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à la finir, c'est mon drame, à des rythmes très différents. Parce que la première fois où je l'ai fait jouer, c'était à l'époque, on était en mode hardcore gaming, c'était une partie par semaine, donc ça allait vraiment, ça allait assez vite. À toute blinde, je pense que ça nous a pris, je dirais quelque chose comme 2 ou 3 mois.
Une dizaine de séances, enfin 10-12 séances.
Mais parce que moi je sabre dans le donjon, hein. Je suis pas branché dungeon crawl. Donc
mais ça veut dire que c'est 12 séances pour 4 tomes, c'est ça ?
Ouais, à peu près.
Donc, ouais, donc c'est court quand même.
Ouais, mais.
C'est assez court, ouais, en fait.
Et ça fait un niveau par séance gagné par les joueurs.
Sachant, ouais, oui.
À peu près.
Après, ça dépend comment tu vois le truc, mais oui, on peut le jouer comme ça, mais encore une fois, c'est parce que moi, je chabre dans les dungeon crawl et que j'aime pas les combats qui durent, donc je fais quand même beaucoup plus de blabla qu'autre chose. La deuxième fois où je l'ai fait jouer, c'était un tout autre format, c'était une partie par mois, etc., etc., ça a pris beaucoup plus de temps, mais encore une fois, on est resté dans les mêmes logiques.
D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on passe...
Non, je n'ai plus de questions.
Alors, Raphaël, tu voulais nous parler ? Le futur des gammes de Donjons et Dragons.
Non, enfin, c'est disons que...
Non, on va couper.
Non, mais en fait, c'est une réflexion qui est liée à ce que je viens de dire sur Pathfinder. Ce qui est très intéressant, si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe au niveau de l'édition officielle de Donjons et Dragons, à savoir donc des Next, qui n'est pas encore sorti, mais dont la phase de playtest est terminée, qui est donc en phase de conception, on ne devrait pas tarder à la voir d'ailleurs, je pense, c'est que comme DD4 n'est plus commercialisé et que The Next n'est pas encore sorti, les gens de Wizards of the Coast se sont retrouvés dans une position... où si on sort du donjon, on sort quoi et pourquoi. Et le choix qu'ils ont fait, qui me paraît un choix extrêmement pertinent, et qui pour moi est donc l'avenir de donjon, c'est ce que je vous disais avant l'enregistrement, c'est de sortir des guides de campagne, en fait, ou des campagnes un petit peu sandbox, dans un univers, etc., sans système de règles. C'est-à-dire que l'idée, c'était, on vous sort ça sans stat block. Vous pouvez télécharger en PDF sur notre site les stat blocs pour DD3.5, DD4, DD Next, vous jouez avec ce que vous voulez. Or, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, tu es un des dissidents, tu joues à Pathfinder, tu joues à 13e âge, tu joues avec un rétro-clone X ou Y, ou avec un néo-clone comme Castles and Crusades, tu peux acheter ces suppléments-là. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est, puisqu'on est arrivé à ce moment quand même assez particulier dans l'histoire de Donjons et Dragons, où on a au bas mot, et je suis très très gentil, une douzaine d'éditions qui cohabitent, grâce à l'OGL qui a permis de recréer les anciennes éditions et de chacun faire son bricolage plus ou moins réussi. Mm-hmm. Puisqu'on a une douzaine d'éditions qui cohabitent, est-ce qu'il est encore pertinent de sortir une campagne pour donj avec des stat blocs ?
Moi j'ai une question plus large. Est-ce que c'est pertinent de sortir un jeu de rôle, avec, enfin des campagnes avec des stat blocs pour d'autres jeux, même pas forcément pour donjons ? On gagne de la place, on a plus de place dans un bouquin édité pour sortir, pour écrire de l'intrigue et de l'histoire, et tout ce qui est technique, finalement, on le sort et on le balance sur le site web. Est-ce que ça aurait pas du sens ?
Je pense. Mais après, faut peut-être pas surestimer non plus le rapport du rôliste au web, je sais pas dans quelle mesure...
Oui, c'est vrai que moi, c'est un travers qu'on a beaucoup quand on est sur le web, on a l'impression qu'il y a que le web qui existe.
Oui.
Et on sait, en discutant avec avec des éditeurs et avec des vendeurs en boutique notamment.
Avec des vrais gens.
Oui, enfin non, mais avec des gens qui sont plus, qui sont proches des acheteurs, on va dire, c'est-à-dire les éditeurs eux-mêmes et les vendeurs de boutique. C'est avec eux, je me souviens d'une discussion il y a quelques mois ou quelques années avec, avec plusieurs d'entre eux, où les mecs disaient que, bon, tu vas me dire c'était il y a 2-3 ans, mais bon, ça n'a pas dû changer tant que ça. Il y a la portion des gens qui vont sur le web, donc des rôlistes qui vont sur le web pour y trouver des informations ou pour améliorer leurs pratiques ou pour trouver des nouveaux jeux, etc., finalement étaient genre 10% de la population rôliste globale. Moi, j'ai tendance à penser que c'est toujours des maîtres de jeu. Globalement, moi, mes joueurs, ils vont jamais, par exemple, sur le net pour ça. Donc, j'ai tendance à penser que c'est que des maîtres de jeu qui viennent et que, comme globalement, tu as un maître de jeu pour 5 joueurs, bah, tu as une proportion de 20% de rôlistes qui vont sur le web. Mais c'est quand même très peu, finalement. C'est quand même très peu.
De rôlistes qui vont sur le web, c'est-à-dire c'est...
Oui, de rôlistes
globaux. Vu que t'es joueur, tu n'as pas le droit d'aller sur
Internet.
Non,
c'est pas que t'as pas le droit, c'est que t'es moins intéressé. Moi, il n'y a aucun de mes joueurs, dans aucun de mes groupes de joueurs, j'en ai eu quelques-uns,
ouais,
qui va sur le net faire autant de choses que moi. C'est-à-dire qui lit des articles, qui va sur CasusNo, qui parle de système de jeu, qui écoute ou qui parle de radio rôliste. Enfin, tu vois, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est souvent réservé au MJ, quoi.
Ouais, pareil pour moi. Je pense que ouais, il y a un truc du MJ qui est la démarche de recherche active, d'aller prendre des trucs pour aller prendre des outils, aller éventuellement améliorer sa façon de jouer. Mais le joueur, lui, il est encore et toujours, c'est aussi vu que je le trouve, dans une position de je mets mes pieds sous la table et où est-ce que je lance mes dés.
Et comment on lance une initiative,
ouais.
Non mais c'est vrai, c'est quoi les dés pour attaquer? Putain, t'es relou. Mais au final, même si la proportion elle est faible, ça touche quand même dans ma tête beaucoup, beaucoup de MJ, beaucoup plus de MJ en tout cas en proportion que de joueurs lambda. Mais ça veut dire que aussi tu touches que les personnes qui sont intéressées. Donc faire ce genre de système, vu que c'est les MJ qui achètent globalement les jeux de rôle, enfin ça arrive, mais c'est rare que ce soit les joueurs qui achètent un jeu de rôle pour un autre MJ.
Donc tu veux dire que le principal intéressé, de toute façon,
Il trouverait l'intérêt
et l'information dont il a besoin.
Ouais, il trouverait ses stat blocs. Je te dis pourquoi là. J'ai écrit un scénario de Bloodlust. J'ai écrit le scénario, j'ai pas fait. François, il pourra en témoigner. J'ai pas fait un seul stat block, moi. Voilà. Ça me gonflait, en fait. Et donc.
Il n'y a rien de plus chiant. Hein,
François, il est en train de les faire. Il se fait chier pour ça. Et puis, à un moment, tu en as parlé, mais j'en avais pensé un petit peu avant. Je lui dis, mais pourquoi on les met juste pas dans un gros PDF sur le net, quoi. Et qu'on vend que l'histoire, que l'intrigue, tu vois, avec les quelques points de règles dont t'as besoin spécifiques, par exemple pour jouer une caravane, pour jouer ce que tu disais, un domaine ou des choses comme ça, quoi.
Mais je suis d'accord, et c'est, je vais revenir sur Donj 2 secondes, ça me paraît une question d'autant plus à se poser que, par définition, t'as investi dans une édition de Donj, ça sous-entend que t'as un bouquin rempli à la gueule de stat block. T'as un truc qui s'appelle le manuel des monstres.
Ouais, y a que ça, quoi.
Qui a été fait pour ça.
C'est vrai que...
Ouais, ils ont qu'à dire, allez voir page 444, y a ça, quoi.
Mm-hmm. Par exemple, Pathfinder, ils ont sorti un manuel des PNJ, et là, pour le coup, ils vont pouvoir se passer d'un certain nombre de stat blocs.
Non, mais c'est pas dit qu'ils le fassent. Moi, je pense que si tu regardes les dernières campagnes, elles sont toujours blindées de stat blocs.
C'est en fait, sauf que maintenant, tu peux aller chercher vraiment les caractères du joaillier que tu rencontres.
Ouais, mais est-ce que le principal intérêt, c'est pas un intérêt éditorial de remplir,
simplement? Ah, mais d'autant plus que, effectivement, moi, mon ressenti, c'est que en termes d'imagination et de qualité d'écriture, il baisse. Donc, quoi de plus simple que de remplacer ça par des stat blocs et des plans de donjons, hein,
mais est-ce que c'est pas l'inverse? C'est-à-dire qu'ils remplissent de stat blocs et puis ils ont les vrais auteurs qui font pas des stat blocs, ils en ont marre et finalement ils ont moins de place peut-être pour développer. Donc
c'est une bonne question.
Donc quid de l'œuf ou de la poule, en fait?
Ouais, je ne sais pas.
Donc ils vont faire. Oui.
Tu sais, il y a déjà eu de nombreuses tentatives de vente de suppléments qui donnaient une intrigue ou un truc comme ça. Sans système spécifique,
oui,
s'est planté.
C'est vrai. Je pense aux 6 scénarios là, dont on parlait la dernière fois, ou d'autres choses dans le même style. Il y a des initiatives, effectivement, il y en a plein même. Effectivement, ça marche pas.
Bah, quand tu nous disais, il n'y a pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, que ce qui se vendait le mieux chez BBE, c'était les bouquins de suppléments de règles et pas les campagnes, je pense qu'on a déjà une bonne piste de réflexion sur... sur ce qui est le plus pertinent économiquement dans le jeu de rôle.
Je suis toujours embêté, ça fait des années que j'entends ça, que les scénarios ne se vendent pas, et partout ailleurs, j'entends, mais pourquoi ils font pas de scénario, tu vois ? Donc c'est un peu, je sais pas pourquoi je suis emmerdé.
Mais je sais que moi, quelque chose qui m'avait beaucoup fait réfléchir, c'est, je sais plus où j'avais lu ça, probablement sur Cassius Snow, une réflexion sur ADD2, qui est quand même donc une édition de Donjons qui a quand même été réputée pour ses settings, puisqu'on a quand même eu Dark Sun, Planescape, voilà, ce genre de choses. Et
j'ai vu l'un des auteurs de Dark Sun.
Je l'ai vu de loin, de dos.
J'ai sa dédicace.
Waouh.
J'avais lu donc la responsable de Pathfinder, donc de Paizo, à la question « Mais pourquoi vous sortez pas plus d'univers ?» avait répondu « Il faut quand même savoir que pour ADD2, le fait de sortir plus d'univers a tué le jeu. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où un MJ avait acheté un des univers, il voulait donc faire jouer dans cet univers et n'achetait donc plus ce qui sortait pour les autres. Sauf évidemment les jusqu'au boutistes qui achetaient tout. Mais il y en avait très peu. Et donc, en fait, en sortant plusieurs univers, on morcelait la clientèle.
Ah ouais, c'est pas bête.
Et moi, ça m'avait beaucoup fait réfléchir, parce que, enfin, voilà, surtout quand on pense à ces univers mythiques, parce que c'est vrai que Planescape, quoi, et tu te dis, à partir du moment où t'as sorti Dark Sun, bah, ça veut dire que ton Planescape, il s'est moins vendu, parce que les gens qui jouent à Dark Sun, bah, ils jouent pas à Planescape. Et j'avais trouvé ça intéressant comme élément de réflexion. Alors, on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet des stat blocks, mais...
Carrément, ouais.
Non, mais c'était intéressant. Ok. Non, mais c'est une bonne opération, à mon avis. Enfin, c'est une bonne idée de ce qu'ils font. C'est une bonne idée.
Mais toujours est-il que, voilà, enfin, les retours critiques donc, de ces suppléments Wizard of the Coast systemless ont été excellents. Apparemment, en plus, c'est de la très bonne cam, parce que justement, les auteurs ont pu se faire plaisir. Ça y est, on s'embête plus avec les stat blocks. On te fait un vrai setting avec des intrigues, des coups de poignard dans le dos et des bagues pleines de poison. Et du monstre, parce qu'il en faut tout de même. Hein, faut des gens à taper. Et en plus, c'est du low level, donc un petit côté... On a les deux pieds dans la boue qui fonctionnent, à mon sens, bien et qui est plus facile à faire jouer que l'ultra haute fantasy, qui est toujours un petit côté est-ce qu'on fait du jeu de super-héros avec des babouches
C'est ça un peu.
Surtout, ce que tu expliquais, c'est que le combat au niveau nécessite énormément de temps et de connaissances système.
Non, mais ça c'est clair, tu t'improvises pas. Alors, c'est moins vrai pour DD4 qui avait les stat blocks de créatures très bien pensées. Mais en DD 3.5 ou en Pathfinder RPG, si tu veux faire si t'es MJ et que tu veux faire de la baston de haut niveau, c'est quasiment l'équivalent de passer un CAPES en jeu de rôlologie. Hein. T'as intérêt à être très très bon.
Ouais, ok. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter là-dessus ?
Ben, non. Donc pour moi, j'ai tout dit.
Dans ce cas-là, on a terminé.
Ouais, c'est bon pour moi aussi.
Ok, donc on va mettre les liens sur le site web de tout ce dont on a parlé. Oui. Et même de Profion, tiens, je l'ai noté. pour la blague. Et voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.
Au revoir.
Salut.